des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter des livres plein les oreilles, une émission de femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes autour de moi. Tiens, je vais commencer par la seconde partie avec une auteure qui d'ailleurs ne se décrit pas comme telle, c'est Heather O'Neill, dont j'ai lu le fantastique livre Hotel Lonely Hearts. Il y en a d'autres aussi dont on pourra parler avec elle, notamment de son petit dernier qui sera lu prochainement. Je vais également recevoir Alice Pasquale qui est la lectrice qui a lu le livre de Heather pour Radio-Canada. Voyez-vous, on n'est pas chiche, on en parle aussi. C'est pas parce que ça n'a pas été fait chez nous qu'on n'en parlera pas. Et puis, dans quelques instants, je vais recevoir Vanessa Beaulieu, dont le livre « Mes tempêtes intérieures » donne la parole à 25 personnes du domaine public, 25 personnes qui ont été ou qui sont encore aux prises avec une forme ou une autre de maladie mentale. Un livre éclairant, un livre qui fait du bien, qui incite à la confiance, qui redonne confiance aussi, souhaitons-le, à ceux qui vivent encore dans le silence, souvent honteux, de la maladie mentale. C'est une production Vues et Voix. Et puis il y aura deux chroniques aujourd'hui. Il y aura celle de Claudia La Rochelle, qui a fait pour nous le tour des prix littéraires français. Et puis Faline Beaubier, qui nous présente quelques livres du CAEB.
Que me reprochez-vous? Tout ce que j'ai fait, c'est noircir de petits cahiers, de petits poèmes qui étaient le reflet de mon âme, de ses douleurs. De quoi suis-je coupable? J'ai couché sur du papier blanc, en des taches d'encre noire, des douleurs d'adulte naissant. J'ai décrit des vaisseaux d'or, des communiantes, des chapelles ruinées, camélias, et tout ça, c'était mon âme qui criait au secours. Acceptez-moi. J'ai défoncé le ciel, je l'ai pulvérisé en milliers d'éclats d'or. J'ai essayé d'en parsemer mon chemin pour laisser une trace qu'on pourrait suivre, qu'on pourrait remonter jusqu'à moi et dont on pourrait dire voilà, c'est de lui, c'est de Nelly. Parce que c'est de Nelly.
dans notre société occidentale favorisant la perfection, l'accomplissement de soi et la réussite. Je me suis essoufflée. J'avais un trop-plein de « je dois être parfaite ». J'essayais d'être la meilleure à l'école, dans ma troupe de danse, comme saxophoniste. Devant un échec, j'étais démolie. Le problème, c'est que je ne suis pas parfaite, ni aucun d'entre nous. J'ai eu mon premier contact avec la maladie mentale à l'âge de 19 ans. J'ai dû identifier le corps de mon frère de 17 ans, décédé d'un grave accident de voiture. Le drap, qui s'était déplacé durant les manipulations, a laissé voir les vestiges des soins qu'il avait reçus. Son visage blême, sans vie, mais resté en tête longtemps et envahissait constamment mes pensées. J'en ai fait des cauchemars. Quelques mois après, j'ai reçu un diagnostic de stress post-traumatique. 2 ans plus tard, mon papa a fait un AVC. Nous avons dû produire un mandat d'inaptitude en moins de 2 heures avec l'équipe de l'hôpital. Je suis devenue responsable de lui cette nuit-là. À 21 ans, je devais m'occuper d'un adulte tout en travaillant 35 heures par semaine, en plus de mes études universitaires à temps plein. J'ai fait un burn-out quelques mois plus tard. Après mes études, j'ai décroché l'emploi de mes rêves en cinéma et en télévision. J'ai vite déchanté. Pas parce que je n'aimais pas mon travail, mais parce que je suis tombée sur une maison de production qui aimait manipuler et intimider ses employés. Tous les jours, pendant près de 2 ans, j'ai eu droit à des cris, des menaces et des insultes. J'ai essayé d'en parler, mais on n'a rien fait. Au même moment, mon amoureux m'a quittée. Il n'en pouvait plus d'être avec une personne constamment malheureuse. J'avais 25 ans. Toutes les petites choses que j'ai accumulées au fil des années m'ont menée à un débordement d'émotions négatives. Ça m'a pris 8 mois avant d'aller consulter mon médecin. J'avais honte d'être faible.
Bonjour Vanessa Beaulieu.
Bonjour.
Avancez-vous un petit peu près du micro.
Parfait.
C'est vous qu'on vient d'entendre. Et c'est à vous que l'on doit ce livre, cette compilation de témoignages et de photos aussi, je dois dire absolument merveilleuse, qui s'appelle « Mes tempêtes intérieures ».
Oui, c'est bien ça. Mais les photos, c'est pas moi qui les ai faites.
Je le sais. Hein? C'est une fidèle compagne, je veux dire amie, que vous appelez. Rappelez-moi son nom.
Sarah Maud Ravenel.
C'est ça.
Nom de photographe, Sam.
D'accord. Et on écoute cet extrait-là que vous avez lu. C'est le tout début du livre. Et on se dit, mais comment passer au travers de ça, de toute façon, sans craquer? Et vous avez craqué. Et il y a ces mots terribles, moi, sur lesquels je voudrais qu'on revienne. C'est la honte d'être faible.
Mm-hmm. En fait, juste revenir, c'est pas moi qui ai fait la voix.
Okay.
C'est Mylène Saint-Sauveur,
comédienne
et une amie d'enfance. Mais
hey, mon Dieu, mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Oui, non, c'est pas drôle. J'étais sûre que c'était vous.
Non, c'est pas moi.
Et c'est une amie d'enfance.
Oui.
Bon, alors, pardon Mylène. Désolée, et peu importe, de toute façon, c'est vous qui avez compilé ce bouquin-là parce que vous avez vécu, entre autres, la honte de la faiblesse, soi-disant, la honte, évidemment.
Oui, et puis c'était à chaque jour cette honte-là, puis tu te lèves à chaque matin, puis tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, puis tu mets un masque pour passer à travers ta journée, parce que les peu de fois où j'avais essayé de parler de mes problèmes... on me disait, va te promener dehors, puis ça va bien aller, puis tout va bien aller.
Parce que c'est ça le problème, hein? On est souvent mal accueillis. Du moins, on l'était, parce qu'il me semble que peut-être il y a une ouverture en ce moment. Peut-être, je le dis peut-être un peu vite aussi, mais moi j'ai souvenir, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, et qu'on voyait quelqu'un qui était dépressif, on disait, elle est feignante, donne-toi un coup de pied aux fesses, et puis ça va aller mieux, quoi. Est-ce que c'est beaucoup, entre autres, ce qui est à l'origine de la honte?
Pour ma part, oui, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent puis qui sont de moins en moins dans le jugement, ce que moi, je n'ai pas vécu il y a à peine 4 ans.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, je vois que ma famille, mes amis s'informent sur la problématique. Il y a de plus en plus aussi de jeunes puis d'amis qui le vivent, donc... Mm. Ben pour les accueillir et les aider là-dedans, ils vont s'informer malgré parfois une peur ou un jugement que les gens puissent avoir.
Est-ce que vous avez l'impression que ce livre-là, peut-être d'ailleurs on vous l'a déjà dit, va en, entre guillemets, non pas sauver, mais va en aider, va en appuyer quelques-uns ou quelques-unes, parce que c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite et qu'on lui souhaite à ce bouquin. Il est essentiel, il est important.
J'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes filles.
C'est vrai.
Surtout dans les salons du livre, quand je vois les personnes qui viennent de me voir, c'est des jeunes filles en 17 et 23 ans, 24 ans, je connais pas leur âge, qui me disent « ben je connaissais pas ton livre, mais j'en ai entendu parler, ça me fait du bien, puis ça m'a permis d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm. » De pas me sentir justement honteuse d'aller chercher de l'aide.
Oui, parce que non seulement il y a les témoignages, mais il y a des petites phrases fantastiques, chocs, qu'on retient. Je peux en citer quelques-unes. Je sais plus, il aurait fallu que je la surligne dans ma recherche. Voilà, c'est des réflexions comme celle de François Imbeau-Dulac, par exemple, qui dit que « si tu souffres, mets ton orgueil de côté et ose parler, c'est mm-hmm. la clé vers la guérison. » On entendait Nelly Gant qui disait que lui, il avait noirci des pages blanches. Est-ce que le fait d'avoir noirci vous-même des pages blanches pour faire ce bouquin, ça vous a aidé, Vanessa Beaulieu, pour vous en sortir?
Oui, ça a été comme la conclusion de ce périple de vie-là.
Vous allez bien?
Super bien.
C'est vrai? Bon.
Puis c'est ça, je disais à Claudia tout à l'heure, avant d'entrer en onde, on m'a demandé pour la nouvelle année qu'est-ce que je souhaitais, puis je disais à ma famille de continuer à être bien. Puis c'était la première fois depuis... Ouais. bientôt 29 ans que je me sens bien avec moi-même puis en paix. Et je veux continuer à aller dans cette voie-là, même si des fois j'ai des bas. Mais j'ai mes trucs maintenant qui fait que ça va bien.
Puis comme on se le disait à un moment donné avec Robert Blondin, de toute façon, le bonheur pur n'existe pas et ça prend un peu de malheur pour l'apprécier mm-hmm. aussi. Donc il y aura toujours des hauts et des bas. Claudia La Rochelle, des hauts et des bas, vous en avez connu. Bonjour Claudia.
Bonjour, oui, j'en ai connu. J'ai fait partie de ce livre-là.
Voilà, c'est pour ça aussi que je souhaitais que vous vous retrouviez ensemble dans cette première partie.
J'ai fait deux dépressions, moi, à 14 et à 24 ans, 10 ans d'intervalle.
À 14 ans,
ouais,
qu'est-ce qui peut...
14 ans.
C'est-à-dire, c'est quand même...
Oui, c'est fou, parce qu'en plus, c'était en 1990, au début mm-hmm. des années 90 en tout cas. Et c'était pas connu, cette dépression. On a 14 ans, on est en dépression. Je veux dire, au collège où j'allais, c'était pas, personne n'avait... Mmh. Ça avait pas été mentionné, personne n'avait fait ça, ou en tout cas... Et c'est très sournois, hein? Puis il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Cette espèce de désir de plaire à tout prix à tout le monde. Alors, j'étais impliquée dans mille et un comités, mmh. je faisais tout, je voulais être parfaite, belle, gentille, intelligente, bonne à l'école, je voulais tout faire. Mmh. Et un jour, ben ça... On explose. C'est un burn-out, un épuisement scolaire, disons ça comme ça. Et ça affecte aussi ben, tout.
Vous n'êtes plus comme ça du tout?
Ben après, oui, après, bon, j'ai eu des... Bon, après, je me suis soignée, mais à 24 ans, je suis retombée.
Ben oui,
alors la preuve, on... Mais maintenant, non.
Maintenant,
non. Là, à 24 ans, j'ai dit « ça va faire ». Et là, vraiment, j'ai appris à détecter les signaux. Parce qu'on les détecte, ces signaux-là.
Bien sûr.
Hein, ça commence souvent par des crises de panique, un sentiment d'étouffement, des espèces d'étourdissements. Faut le dire, je le dis parce que maintenant, je n'ai plus honte, mais j'ai eu longtemps honte de le dire. Je prends des médicaments depuis justement mes 24 ans. Alors, je prends des médicaments, je prends des antidépresseurs, toute petite dose, mais qui me maintient, un peu comme un diabétique va prendre son insuline. J'en ai besoin, moi,
la
de ça.
La petite pilule du bonheur.
Pour m'équilibrer, pour rester toujours à flot. Ouais.
J'aimerais jeter un petit coup d'œil sur votre table des matières, parce que c'est tellement impressionnant. tous ces sujets, tout ce qui peut nous amener à un moment donné ou à un autre, à souffrir de cette maladie de l'âme et du cœur. Alors apprendre à s'aimer comme on est, les défis de la vie de famille, devenir une femme, se relever d'un échec, l'anxiété, l'isolement, le trouble obsessionnel, le trouble bipolaire, l'abandon, la recherche de soi, aussi énormément de choses en rapport au corps.
Énormément.
Ben, le rapport au corps, le paraître. Hein?
Aujourd'hui, plus que jamais.
Plus que jamais, c'est
plus
ça.
Plus que jamais avec les réseaux sociaux, la comparaison qu'on peut vivre juste avec ces images-là.
Oui. Alors, justement, je me disais, est-ce qu'on essaie tellement, entre autres, par rapport au corps, on est tellement sur le contrôle de nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas à force d'être constamment sur le contrôle qu'on finit par le perdre?
Ben oui.
Vanessa Beaulieu.
Moi, pour ma part, quand j'ai commencé à perdre le contrôle de ma vie, le seul moment où je me sentais en contrôle, c'est quand je contrôlais ce que je mangeais ou ce que je ne mangeais pas.
Okay.
Puis même en descendant à 93 livres dans mon état de plus grande dépression, je me trouvais grosse. Puis aujourd'hui, j'ai vu ces photos-là dernièrement en faisant un classement de photos. Puis je regarde ces photos-là puis je me trouve horrible. Puis aujourd'hui, ben, j'ai pris 50 livres depuis parce que ça va bien, puis c'est ça la vie aussi. Puis je m'accepte comme je suis, puis je me suis jamais trouvée aussi belle que depuis que j'ai pris du poids, puis pourtant, 50 livres de moins, et je m'haïssais, là.
Comme, quand je vous dis que ce livre-là est important, mes tempêtes intérieures, je trouve que ce qu'elle vient de dire, parce que la femme que j'ai à côté de moi, et Claudia, je pense que tu seras d'accord avec moi, est vraiment une très, très belle jeune femme. C'est vraiment non seulement charmante et délicieuse, mais en plus, alors elle a pris soin... D'abord, j'imagine pour elle, et puis ensuite pour les autres, encore une fois, de colliger tous ces témoignages de gens. Écoutez, ça va de Manon Massé, par exemple, qui elle aussi, elle a tellement eu, je veux dire, avec son image, ça a été terrible, à quel point ils ont failli l'avoir, et à quel point ils l'ont eu, d'ailleurs, à un moment donné. Plein de gens comme ça, bon, là, je pense au jeune Godin, là, qui fait du sport, qui fait des ultramarathons, parce qu'il a besoin de ça, parce que sinon, ce gars-là, à la limite, c'est ça, sa petite pilule du bonheur à lui. Alors, ce sont tous ces témoignages que l'on peut trouver dans ce livre-là, Mes tempêtes intérieures. Alors, on peut le lire, bien sûr, mais on peut aussi le trouver gratuitement au SQLA. Ça a été produit par Vues et Voix, donc il n'y a même pas besoin. Vous pouvez aller l'acheter si vraiment vous le voulez chez vous, comme on achète un livre, ou sinon, vous pouvez vous le procurer gratuitement chez Vues et Voix. Mes tempêtes intérieures, 25 témoignages, porteurs d'espoir sur la maladie mentale. Peut-être se quitter, Vanessa, en vous rappelant tout le monde que la Semaine nationale de la santé mentale, c'est au mois de mai. Donc, ce sera du 6 au 12 mai 2019. C'est bien ça. Vanessa Beaulieu, merci beaucoup. Claudia Larochelle, vous restez avec nous parce que ça va être à vous. Ça va être votre chronique. Au revoir, Vanessa.
Merci beaucoup.
De rien. Vanessa Beaulieu vient de partir. J'ai oublié de vous dire un élément important, c'est qu'à la toute fin du livre, en page 283, il y a des ressources pour trouver un spécialiste, des lignes téléphoniques d'urgence, il y en a 8 différentes, alors ça me semble vraiment important, et des sites internet pour venir en aide aux gens qui sont peut-être encore murés dans le silence de la honte de ne pas aller bien dans leur tête. Claudia Larochelle. C'est à une femme qui va très bien maintenant que je m'adresse.
Ça va bien dans ma tête. Oh oui, on essaie de garder le cap.
Claudia, je vous ai demandé, quoique non, je ne vais pas dire que je vous ai demandé. D'abord, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Tu m'as dit que tu avais lu absolument tous les livres, tous les prix littéraires.
Je lis tout, moi, Clotilde.
Tout. Attention, parce qu'un jour, je vais t'avoir.
Oh non, c'est pas vrai, en plus. Mais tu sais, j'en lis beaucoup, mais pas tout.
Bon, alors, on commence. Ouais. Est-ce qu'on commence par le prix Renaudot, par le sillon?
OK, on commence avec le sillon. De Valérie Manteau.
Oui.
Donc, on parle d'auteur français, là, ici, d'autrice et d'auteur français, parce qu'ici, il s'agit d'une autrice qui est aussi chroniqueuse.
Toi, tu dis autrice, hein, ça.
Moi, c'est ça maintenant. Je l'ai adoptée. Ouais. Ça a été difficile juste par réflexe, mais pour faire honneur à nos prédécesseurs.
Oui, je sais.
Prédécesseuses. Hein? Mais on revient parce que c'est un vieux terme et la phallocratie française l'anéantit et on le reprend. On fait honneur aux femmes.
Je referme la parenthèse.
Et voilà. Alors, ce livre-là ne figurait même plus sur la liste du Renaudot. Il y était au début et finalement, il est revenu. Ils l'ont remis sur la liste. Et avec ce geste-là, le Renaudot donc, a voulu distinguer un beau roman et saluer le travail d'une toute petite maison d'édition. C'est le Tripode et c'est le deuxième roman de Valérie Manteau. C'est rare, hein, un roman de femme qui est salué par les grands prix littéraires. Malheureusement, trop rare dans ce beau bal de macho. C'est comme ça, je le dis, puis je le souligne, mais c'est vrai. Et c'est ici un roman de journaliste, c'est un récit, puisqu'elle a vécu cette histoire-là. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui part rejoindre son amant à Istanbul et qui se met à obséder donc, sur l'histoire du journaliste turc d'origine arménienne, Frank Dink, assassiné en 2007 par un nationaliste turc de 17 ans devant le siège social de son journal, le Agos, hein, qui veut dire Sillon en français, qui appartient à cette petite catégorie en deux mots, Sillon, Agos, jadis partagé par les Turcs et les Arméniens.
D'accord.
Alors, elle a voulu rendre hommage en quelque sorte à ce journaliste-là, parce qu'on parle ici de liberté d'expression dans ce titre-là, on parle de liberté de presse, et elle revient aussi souvent sur l'attentat du Charlie Hebdo, elle aussi, parce qu'on va en reparler plus tard, et elle se demande pourquoi le peuple turc ne s'est pas levé lors de cet assassinat-là à l'endroit de Dink. Donc, c'est un récit qui est vécu au présent, dans la Turquie de 2016, et dans laquelle elle se questionne donc sur ses amis intello-turcs, elle se questionne sur leur vécu. C'est aussi un texte sur la déconstruction d'un amour et la déconstruction aussi d'un pays. Bon. Alors voilà. Je mentionne aussi juste avant que Olivia de Lamberterie a obtenu le prix dans la catégorie essai pour Avec toutes mes sympathies autour du suicide.
On dont parle de on avait déjà parlé d'ailleurs. Tu nous en avais parlé lors d'une. Bon, d'accord.
Alors autour du suicide de son frère.
J'ai un petit extrait. Je vous dis tout de suite, moi je trouve pas ça terrible, terrible comme extrait, mais je vous explique pourquoi je le diffuse, parce que c'est un extrait, c'est un livre qu'on peut trouver gratuitement, notamment à la BNFA, je vais y arriver, qui est la Bibliothèque nationale française accessible. Donc, c'est la même chose quand vous êtes non-voyant, vous envoyez un papier comme quoi vous êtes non-voyant et vous pouvez avoir accès à tous ces nouveaux livres, notamment ces livres primés. Alors, on va écouter ensemble un extrait de Le Sillon de Valérie Manteau.
Sarah est rentrée à Gaziantep avec Ibrahim, on a à peine eu le temps de passer un moment ensemble. Elle décrète qu'il faut qu'on se cale des rendez-vous téléphoniques réguliers, commençant maintenant. Elle s'inquiète parce que j'ai eu le malheur de dire que depuis mon arrivée en Turquie, j'ai échangé la psychanalyse pour des cours de yoga et que je ne m'en trouvais pas plus mal. À part, bien sûr, les cauchemars récurrents, les bouffées d'angoisse. Et les voix aussi. Ne jamais dire, même à une amie, surtout pas à une amie psy, qu'on entend des voix.
Alors, quelles sont les nouvelles du pays des droits de l'homme? Je me demande si c'est ironique, mais non. J'essaie de continuer à lire un peu la presse française, qui paraît outrageusement futile et autocentrée quand on ne vit pas dans Paris intramuros, quand on est par exemple sur un balcon surplombant Istanbul. Qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? On a deux ministres qui ont démissionné la semaine dernière, économie et culture.
Voilà, je dis souvent à cette émission que je préfère souvent la voix de synthèse à la voix humaine, parce que vous l'avez entendu comme moi, la voix humaine, il est peut-être charmant ce monsieur, mais enfin c'est complètement mortifère. Alors que la première voix, c'est une voix de synthèse, mais au moins vous avez accès, si vous le désirez, à ces livres-là. Le prix Fémina et prix spécial Renaudot. Ouais. Le Lambeau.
Oui, le Lambeau.
De Philippe Lançon.
Et voilà, oui, on ne l'avait pas mentionné tantôt, mais c'est vrai qu'il y a eu une mention spéciale, Philippe Lançon, dans la catégorie Renaudot. Le Lambeau, Fémina. Écoute, si vous n'avez pas entendu parler du Lambeau, vous viviez sur Mars ou
c'est
sur
ça.
Vénus,
oui.
Mais tout le monde en a entendu parler. C'est paru chez Gallimard. Son quatrième roman, Philippe Lançon, encore un journaliste. C'est un journaliste à Libération et à Charlie Hebdo. Hein. Il revient justement sur les attentats du Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Un attentat qui a massacré 12 personnes. Il a vu ses amis mourir sous ses yeux. Il a été lui-même blessé. Une balle lui a arraché le bas du visage. Et ce récit-là, dont j'ai parlé d'ailleurs à sa parution, commence la veille de l'attentat quand il est au théâtre pour voir La Nuit des Rois de Shakespeare.
Oui.
Une étrange prémonition quand on sait qu'il est question du personnage de Malvolio et qui veut punir les hommes de leurs plaisirs et de leurs sentiments au nom du bien qu'ils croient porter au nom de Dieu. Voilà. Ce récit, donc, est celui de sa lente reconstruction à Lambeau. Hein, c'est un récit, c'est sa reconstruction à lui, sa reconstruction morale, mentale, mais celle de son corps aussi, son visage, la reconstruction de son âme. Je savais que ça allait gagner un prix cette année. Et ça a été nommé d'ailleurs dans plus d'une catégorie.
Mm-hmm.
C'est un livre de journaliste, ça va droit au but avec un sens de la synthèse, du détail, c'est juste, c'est justifié. On n'est pas dans le pathos malgré la lourdeur du propos. C'est chargé en émotion. C'est un livre dense, il y a beaucoup de pages, beaucoup de contenu, mais c'est un livre qui se lit d'un trait tout de même et qui reste en nous longtemps.
J'ai un extrait lu par Denis Podalydès, l'acteur français, et vous pouvez trouver ça sur audible.ca.
Je ne m'étais pas toujours bien comporté avec elle. Elle m'en avait voulu, avait cessé de m'en vouloir. Elle avait moins de rancœur que de générosité. Elle et moi passions une soirée ensemble de temps à autre, dont celle-ci. Comme c'est la dernière personne avec qui j'ai partagé un moment de plaisir et d'insouciance, elle m'est devenue aussi précieuse que si j'avais passé une vie entière avec elle. Une vie interrompue, désormais presque rêvée, et qui s'est arrêtée ce soir-là, dans une salle de théâtre, avec le vieux Shakespeare. Depuis, je vois peu Nina, mais je n'ai pas besoin de la voir pour savoir ce qu'elle me rappelle, ni pour sentir qu'elle continue à me protéger. Elle a cet étrange privilège, être une amie et un souvenir. Une amie éloignée, un souvenir vivant.
Quelle belle voix que celle-ci. J'ai oublié de vous dire, donc ça justement, c'est la soirée dont vous parliez la veille
avec Nina.
Alors, très rapidement, on a déjà parlé ici à l'émission de Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, prix Goncourt, que vous avez adoré.
Ah, tellement. Et il est arrivé, il ne s'attendait pas à le gagner, le Goncourt. Il est arrivé une demi-heure après l'annonce du prix Goncourt, donc une demi-heure après au restaurant de Rouen, escorté par Bernard Pivot. Hein. Il a 40 ans, c'est son deuxième titre. Il a d'abord commencé avec un roman noir, puis il vit à Nancy. Où il ne gagne pas sa vie de sa plume, mais bon, je pense qu'il va, commencer à la gagner,
changer, oui.
Probablement. C'est le roman de la classe moyenne et modeste dans la France périphérique, à travers, donc ce roman à travers lequel on suit des ados dans les années 90, probablement pour ça que ça m'a parlé beaucoup. C'est après la chute du mur de Berlin, c'est l'époque de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, c'est l'été des premiers amours, des chaleurs, de la clim qui ne fonctionne pas, et c'est surtout un regard sur l'héritage laissé par nos parents. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est ça un peu cette histoire-là, oui.
Et en 30 secondes, il dit aussi de Pierre Guyotta, le prix Médicis.
Voilà.
Gentil.
C'est clairement biographique. C'est l'entrée dans l'âge adulte de Guyotta entre 1958 et 62, entre ses 18 et 22 ans. Ça se déroule essentiellement en Algérie, en guerre pour laquelle le père de l'écrivain, lui, avait obtenu un sursis, mais à laquelle le jeune homme avait décidé de participer en soldat. Voilà.
Merci beaucoup, Claudia La Rochelle. Il me semble, moi, à un moment donné, là, je vais vous avoir une demi-heure avec moi. Ça n'a pas de bon sens, parce qu'à chaque fois, oh, il nous reste 10 minutes. Ben oui, 10 minutes.
On est habitués.
Alors, restez avec nous. Heather O'Neill est là, entre autres, dans la seconde partie de l'émission. Merci, Claudia.
Merci, Clotilde.
Des livres pleins les oreilles, la suite. La suite, alors rebonjour tout le monde, toujours Clotilde Seille en votre compagnie à l'émission Des livres pleins les oreilles, vous écoutez Canal M et je reçois, je vous l'ai dit tantôt, elle est arrivée, je vois jusqu'au bout, à temps que je ne la voyais pas dans mon studio, j'y croyais pas trop, mais oui elle est bien là, j'ai Heather O'Neill avec moi, auteur de Hotel Lonely Hearts en studio et pour l'accueillir, j'ai pensé à cet extrait de la chanson Laissez passer les clowns de Diane Dufresne et là vous vous dites mais pourquoi, eh bien restez des nôtres. Thank you.
passer au lendemain. Laissez passer les clones. On peut s'en aller aussi loin qu'on veut. Et bien dans sa tête, c'est mieux. Surtout, soyez fous, soyez fous jusqu'au bout.
Laissez passer les clowns. Heather O'Neill, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. On ouvre cette entrevue avec un extrait de la chanson Laissez passer les clowns qui est beaucoup plus longue en fait. Mm-hmm. Ce n'est pas par hasard parce que les clowns tiennent une place prépondérante dans ce livre-là et nous donne lieu à des pages absolument exceptionnelles. Cette réunion de clowns tristes.
Ouais.
Les clowns, c'est important dans votre vie, Heather?
En fait, j'étais toujours intéressée par les clowns tristes en particulier. Ouais. Et cette forme d'art où vous avez comme des acteurs qui font des, des actions comme ouais. ordinaires, mais ouais. il s'agit en maintenir toujours... en jamais oubliant qu'il y a de la souffrance dans le
oui,
monde, donc
oui,
ils font quelque chose
oui.
comme s'ils lavent la vaisselle, mais c'était ouais. avec l'idée toujours en monde qu'il y a des ouais. enfants qui souffrent, donc j'ai toujours aimé ça, c'est, c'est un sort d'amusement, mais mm-hmm. qui est fondé à base de la mélancolie.
Exactement, comme votre livre.
Ouais.
Parce qu'il faut quand même que je précise que les clowns ne sont pas les héros, les personnages centraux, quoique ce sont des personnages très importants dans ce livre-là. Il y a deux personnages, hein, Pierrot et Rose, qui se rencontrent tous les deux dans un orphelinat. Ils sont abandonnés. Tous les abus possibles, tous les abandons possibles, nommez-les, ils les connaissent tous. J'ai déjà entendu dans une entrevue, Heather, que vous avez connu ça vous-même. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas, moi, vous demander ce que vous avez vécu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était important pour vous de coucher tout ça sur le papier aussi pour vous faire du bien, comme on en parlait d'ailleurs en première partie de cette émission.
Oui, en fait, je suis toujours intéressée par comment les enfants et les gens... je ne suis pas tellement... intéressé à décrire l'abus, mais je le fais, oui. mais c'est surtout comment on survit
oui.
cette sorte d'affaire et comment on peut trouver d'amour pour soi-même après qu'on est tellement brisé, puis on a vécu tellement des affaires laides et comment
oui.
après tout ça, on peut trouver la beauté dans nous-mêmes.
Et la provoquer.
Ouais.
Parce que c'est ce qui rend ces deux personnages-là absolument magnifiques. C'est qu'en plus, ils la provoquent, la beauté.
Ouais.
Je voudrais lire un tout petit extrait. On est page 114 en ce qui concerne Pierrot. Qui donc, en le regardant, aurait deviné qu'il avait été violé? Plus il s'éloignait de ces événements et plus il lui était difficile de composer avec eux. Il se rendait compte qu'ils étaient atroces et bizarres et il n'avait pas la moindre idée de la manière dont une personne devait agir après avoir survécu à une chose pareille. Mmh. Je trouve que c'est toute la poésie de ce bouquin-là, c'est de faire du beau avec du tellement laid. Alors lui, il est pianiste, et quand il se met au piano, c'est un espèce de surdoué du piano, et elle, Rose, est une surdouée de la danse. Ces deux-là provoquent, quand on les voit, quand on les écoute, on est complètement coi d'admiration, et on oublie tout le reste. Est-ce que vous aviez un talent vous-même, Heather?
Moi, je dirais l'écriture, mais c'est tout.
Je suis contente que vous me le disiez. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tellement lu que vous ne vous considérez pas comme une écrivaine. Hey, Heather O'Neill, si vous n'êtes pas une écrivaine, vous, l'auteur de Hotel Lonely Hearts, vous êtes quoi?
Mm-hmm. Non, je me considère comme une écrivaine, c'est certain. Je trouve que c'est avec l'écriture m'a vraiment comme sauvée, mais
ouais.
j'écris tellement maintenant, je passe presque tout le temps
c'est vrai.
À écrire. Donc, pour moi, en fait, quand je suis dans la littérature, la fiction, c'est plutôt la réalité pour moi. Et quand j'agis dans le monde, c'est comme un peu la fiction. Je comprends pas où que je suis.
Mm-hmm.
Donc,
mm-hmm.
C'est renversé pour moi.
Alors, Pierrot et Rose vont se rencontrer, ils vont se perdre. Ils vont se perdre de vue parce que dans un orphelinat, ben, c'est comme ça. À un moment donné, il y en a un qui s'en va chez un personnage absolument fantastique qui s'appelle Irving. D'ailleurs, j'ai tellement pensé à Irving, à l'auteur dans votre livre, que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que c'est un hasard s'il s'appelle, s'il porte le même nom. Et puis, il y a Rose. Alors, Rose, elle est moins rêveuse que Pierrot. Elle est plus enragée aussi. Elle porte une rage là, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Et pendant tout le bouquin, en fait, au moins 200 pages, ces deux-là essaient de se retrouver. Et nous, lecteurs, on assiste à leur presque retrouvailles parfois. Puis paf, ils se ratent à une page près. Tu dis non. Ça vous fait rire, Alice. Bonjour. Alice Pasquale est là également.
Bonjour.
Alice, vous êtes comédienne et vous avez eu la chance de lire Hotel Lonely Hearts. Et je dis bien la chance, je pèse oui. Le poids de mes mots. Pour Radio-Canada, pour les livres audio Radio-Canada, où oui. Se trouve le livre gratuitement. Mm-hmm. Quelle expérience avez-vous vécue et quelle expérience vous en retirez de cette lecture de ce livre-là, Dether?
Ben, c'était une... J'ai complètement plongé. J'ai lu d'abord le roman pour moi.
À voix basse.
C'était en voyage et j'ai reçu le paquet de feuilles parce que c'était une version
ouais.
imprimée.
Ouais.
Et j'ai été complètement emportée. J'ai pas pu m'arrêter de le lire pendant... Ça m'a pris 4 jours, mais je n'ai pas arrêté.
Arrêté.
Et puis, comme vous dites, ça m'a fait sourire ce que vous avez dit parce que c'est vrai qu'il se rate à une page près, mais ça fait que nous, on ne peut pas s'empêcher de la tourner, la page. Puis il y a quelque oui. chose d'irrésistible dans la destinée qu'on suit. Puis bref, donc j'ai été complètement...
Ils sont touchants, hein, Rose.
Ah, ils sont bouleversants.
Mais tous, mais d'ailleurs, Poppy aussi. Quel personnage merveilleux. Il y a vraiment... Et même les franchement moches, à un moment donné, ils craquent aussi. Comme par exemple, là, je ne me souviens plus de son nom. Moi, je l'ai lu il y a déjà quelques semaines. Mais le gros brigand, le New-Yorkais, parce qu'attendez, à un moment donné, ils finissent dans la drogue. Ils finissent... on ne reste pas à Montréal. Hein, on se balade partout. Et le show, d'ailleurs, qu'ils sont en train de monter avec les clowns, va être présenté à New York. Et là, il y a une affaire de...
C'est
une aventure incroyable. Il y a de l'érotisme aussi là-dedans. Mais même les moments d'érotisme sont d'une beauté.
Oui, oui, oui.
Heather.
Moi, j'adore décrire ces sujets-là. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme... j'ai toujours aimé ça moi-même dans les romans. C'est parce que dans les moments sexuels,
ouais.
vous voyez un côté caché du monde. C'est un peu comme on a l'intimité avec l'électrice. Donc,
oui.
Je trouve ça, j'ai toujours trouvé le corps nu comme tellement belle.
J'ai
toujours trouvé que l'érotisme dans l'art et dans la littérature, comme c'était... je ne sais pas pourquoi, on a des choses qui nous tirent. Puis,
et c'est un pari, gagné, Heather, ouais. parce que les pages érotiques sont également de toute beauté. Puis on revient un petit peu sur les clowns, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, mais la fantasmagorie, parce que déjà rien que ça, la grande fantasmagorie des flocons de neige. Comment vous allez appeler ça? Parce qu'à un moment donné, ils débarquent à New York, ils cherchent un théâtre. Parce que ça leur prend du cash, tout ça. Bon, oui. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Et alors là, elle est accueillie par un gros mec flasque. D'ailleurs, c'est écrit et c'est tellement charmant. C'était un homme gras, énorme, coincé dans une chaise en bois derrière son bureau. Et c'était rassurant de voir un homme gras en ces temps de dépression. C'est tellement... Alors il dit, lui, bon, allez, fais ça vite, la machinette. Alors elle lui dit, oh, mais ça va être la grande fantasmagorie. Des flocons de neige. Et alors là, elle lui parle de ses clowns. Et elle dit, en parlant des clowns, qu'ils n'ont pas la vanité de parcourir le globe pour étaler leur talent dans le but de récolter les honneurs. Qu'ils se produisent au Carnegie Hall ou devant 4 enfants dans un parc, ils ne voient pas la différence. La gloire ne les intéresse pas. Ils n'ont que faire de l'immortalité. Ils ont pour devoir de créer la beauté. Et il est de mon devoir de permettre au monde entier de les voir. Et c'est ce que fait votre livre aussi. Moi, je ne verrai plus jamais un clown de la même façon. Alice, vous-même? Déjà, j'ai toujours été touchée par les clowns. Mais là, plus jamais. Plus jamais. En plus, Pierrot lunaire, puis ça se finit sur un croissant de lune. Et puis, Waouh.
Oui, la poésie, toute la poésie.
Ah, la poésie, même quand il y a du sang, ça reste poétique ce livre-là.
Ouais.
Et je vous le... Donc, ça s'appelle Hotel Lonely Hearts. C'est pas le plus récent livre de Heather O'Neill qui nous fait la joie et le bonheur d'être là aujourd'hui. Mais je voudrais aussi préciser au monde que si vous aimez l'ambiance, l'univers... De Heather O'Neill. Il y a aussi La vie rêvée des grippins qui est disponible en version gratuite via le SQLA, donc pour les personnes non-voyantes. Et je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour que vous nous parliez de celui qui vient de sortir. Et je précise bien, écoutez-moi bien, je vais le dire, il n'est pas encore lu, mais il va l'être très, très, très rapidement. Vous allez me donner les deux titres parce qu'il y a un titre français et anglais.
En anglais, c'était « The Girl Who Was Saturday Night » et la traduction, c'est « Mademoiselle Samedi Soir ». Et je trouve que j'aime mieux la titre en français.
Est-ce que c'est Dominique Fortier qui traduit vos livres, qui a trouvé ce titre-là?
Non, mais en fait, c'était drôle parce que j'étais en Paris, puis on avait beaucoup de choix pour les titres, puis il y avait un éditeur là qui a dit tout à coup, il avait une idée qu'il aimerait que le livre sera appelé Mademoiselle Samedi Soir, puis on a tous été ravis. Oui. C'était on est tout bouleversés à un moment.
Je vous donne 30 secondes. Dites-nous dans quelle ambiance vous nous amenez dans ce nouveau livre, Heather O'Neill.
Ben, en fait, c'est dans les années 90. À l'époque de le référendum.
Mm-hmm.
Donc, puis ça prend... Ça suive l'histoire de deux jumeaux qui s'appellent Nouchka et Nicolas, puis ils ont 19 ans, puis ils sont trop proches, les deux, il faut s'attirer. Mm-hmm. Donc, c'est une histoire de Montréal à l'époque, parce que j'étais le même âge à cette époque-là, donc et tout qui se passait dans le politique et dans les rues, c'était tellement une époque à Montréal qui était pleine de vie, puis... plein d'incertitudes, quoi. Donc,
Et les deux jumeaux ne sont peut-être pas d'accord? Ils ne sont peut-être pas dans le même camp? Ce serait drôle qu'il y en ait un qui soit oui et l'autre.
Ben, en fait...
je ne sais pas, je dis ça de même.
Ben, il y en a... Ben, les deux sont pour oui.
OK.
Mais on dirait plus Nicolas qui ne changera jamais. Mm-hmm. Il est plus radical. OK. Ben, donc, ils ont tous les deux des idées sur la culture francophone à Montréal à l'époque. Et, en fait, c'est un roman qui, j'essayais de faire, c'est très comique.
Oui, OK. Heather, je dois dire que c'est un... Je suis vraiment contente. On va écouter un petit extrait du livre Hotel Lonely Hearts, tel que lu par Alice Pasquale pour Radio-Canada, livre audio. Je voudrais vous dire que vous êtes un secret un petit peu trop bien gardé, je trouve, côté québécois, et que Dominique Fortier, qui est votre traductrice, hein, vous êtes d'accord avec moi, Alice, est absolument remarquable.
La traduction est formidable.
Non, elle est parfaite. Je pense des fois que peut-être elle a amélioré le livre.
Ça, c'est pas vrai, je ne crois pas. Allez, on écoute un extrait.
Le spectacle de clown fut un triomphe. Au souper, tout le monde se pressa autour d'une table pour écouter Pierrot lire les journaux à voix haute. Les clowns semblaient suggérer que nous ne sommes rien de plus que nos défauts et que si on éliminait nos failles, il ne resterait rien de nous. Ils éclatèrent de rire et levèrent leurs grands bocs de bière pour les entrechoquer. De fort joyeuse humeur, ils burent jusqu'à avoir le front rouge et luisant de sueur, comme s'ils venaient de faire l'amour. Les mots de leurs phrases se tamponnaient comme des voitures de clowns, parce qu'ils n'avaient rien de très important à dire. Une heure avant le début du spectacle, il y avait toujours une file de gens devant la porte qui attendaient d'entrer, bloquant le trottoir. Et quand c'était fini, ils se précipitaient vers la sortie, comme des bulles d'eau pétillante montant vers le col d'une bouteille, pour aller en parler à leurs amis. En quoi l'histoire absurde et triste de Pierrot et Rose pouvait-elle bien les concerner? Comment s'était-elle transformée en divertissement? Pierrot savait qu'il n'aurait pas dû être étonné. Quand Rose et lui, enfants, se produisaient devant les riches, ils charmaient leur public à tout coup. Mais c'était impressionnant à voir à grande échelle. C'était ce sentiment doux et heureux qu'il éprouvait quand il était avec Rose. Ils avaient réussi à transmettre ce sentiment d'innocence et de jeu face à l'oppression et à la catastrophe. Et cet élixir s'apparentait à de la drogue. Ils allaient jouer à guichets fermés de nouvelles dates. Et on ajouta des supplémentaires pendant un mois, à la consternation de Jim.
Voilà la rencontre entre une auteure, Heather O'Neill, et sa lectrice, Alice Pasquale. Garochez-vous, j'allais dire, parce que c'est le mot qui me vient sur Hotel Lonely Hearts de Heather O'Neill. Merci beaucoup, Heather, pour votre présence.
À ma plaisir.
Et puis, merci aussi à vous, Alice, d'être venue. Je rappelle que ce livre-là, c'est gratuit, si vous voulez l'entendre. Il suffit d'aller sur le site de Radio-Canada, Livre Audio. Oui. Bravo pour votre excellent travail à toutes les deux. Petite musique tout en douceur pour vous accueillir, Faline Beaubier. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va bien aussi. Faline, vous nous arrivez avec des livres à saveur un petit peu, quoi, politique?
Oui, c'est ça que j'avais pensé aujourd'hui. J'ai choisi deux livres qui portent sur la politique et le gouvernement.
Oui.
Il y a un qui est une œuvre de fiction située au cœur de l'institution de la présidence des États-Unis et dont l'un des auteurs, en fin de compte, est lui-même ex-président en réalité. Et l'autre, c'est une œuvre documentaire qui porte sur la réalité politique en Russie de nos jours.
OK. Alors, on commence par celui co-écrit par Bill Clinton.
OK. Oui, c'est ça. Donc, le livre s'est intitulé « Le président a disparu ». Comme vous avez dit, c'est écrit par Bill Clinton et James Patterson.
D'accord.
Alors, Patterson, je pense que tout le monde le connaît. C'est vraiment une machine à écrire des best-sellers. il a publié quelques 150 titres au cours des 20 dernières années. Et en 2012, le magazine américain Forbes le classe comme l'écrivain le mieux payé au monde, avec 94 millions de dollars de revenus annuels. Alors,
bon, ça va.
Donc, oui.
Bon, alors, on enlève quoi? 50 millions d'impôts, il lui en reste à peu près 4. Ah, c'est bon, il est bien là. Il est cool.
Donc, le résumé de, ou l'intrigue, c'est assez simple. Donc, ça se passe à la Maison Blanche, évidemment la résidence du président des États-Unis. La personne en croirait être la mieux protégée, la plus étroitement surveillée au monde. Alors, comment un président américain peut-il disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi choisirait-il de le faire? Donc, c'est ça qui est... qu'on voit dans ce livre, cette collaboration entre Clinton et James Patterson. Et Bill Clinton a dit le suivant au sujet du livre. Il a dit « Oui, le président a disparu, relève de la fiction. »
Ah oui.
Mais James Patterson et moi avons imaginé trois journées parmi les plus terrifiantes de l'histoire de la présidence et qui pourraient véritablement
arriver.
Avoir lieu. Donc, je pense que si vous aimez ce genre de livre, je ne l'ai pas encore lu, il faut que je l'admette.
D'accord. Et j'aimerais aussi, parce qu'il nous reste quoi, un petit 3 minutes et j'ai un petit extrait. Donc, je voudrais que vous nous parliez de « Les hommes du Kremlin dans le cercle de Vladimir Poutine ».
OK. Donc, c'est un livre écrit par un journaliste d'investigation, Mikhail Zygar. Et c'est vraiment, il a fait des centaines d'heures d'entretien exclusifs, souvent clandestins, et ça lui a permis de nous dresser un portrait du pays qui n'est pas sans rappeler, je dirais, la série House of Cards, la série américaine, parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve là-dedans. C'est les rivalités personnelles qui sont nombreuses, les alliances souvent surprenantes, les conspirations multiples.
Alors, donc, justement, j'ai un petit extrait, pardon de vous avoir interrompu, cher Falline, où on fait connaissance avec un des personnages qui est proche de Poutine. Et d'ailleurs, la grande question qui est posée, c'est comment se fait-il que ce personnage-là ait pu être aussi proche de Poutine? On écoute ça.
Okay.
Saakashvili menait la belle vie et se consacrait souvent à des questions d'importance contestable en compagnie de ses jeunes assistants. Il n'a jamais rien eu d'un ascète, mais personne ne l'a jamais accusé d'enrichissement personnel. Toutes les accusations qui ont ensuite été portées contre lui en Géorgie ont trait des affaires d'abus de pouvoir et de gaspillage de fonds publics, pas de détournement. Avec Saakashvili, on n'est jamais à court de questions. La plus intéressante est sans doute de savoir pourquoi il est devenu l'ennemi numéro un de Poutine.
Voilà pourquoi Saakashvili est-il devenu l'ennemi numéro un de Poutine. Ça fait partie des nombreux questionnements que l'on retrouve dans ce livre-là, qui doit être fait un petit peu comme un roman d'espionnage, parce que
c'est vraiment un roman du pouvoir russe en fin de compte. On parle souvent du pouvoir indéniable de Poutine, mais on trouve à travers ce livre qu'il est largement assujetti à quelques grandes figures. C'est vraiment un peu digne de la cour des Medici.
Ah oui, hein? Ah oui, oui.
En lisant le livre.
Oui, alors Medici, comme vous dites très bien, qu'on appelle nous les Médicis pour que tout le monde...
C'est pas grave,
Aline. Je voulais juste être sûre que tout le monde comprenne bien de quoi et de qui on parlait. Donc, vous nous avez proposé cette semaine Les Hommes du Kremlin dans le cercle de Vladimir Poutine, écrit par Mikhail Zygar, ou Zygar, Z-Y-G-A-R. Et puis ce livre écrit par la machine à écrire... qu'est Monsieur Patterson, James et Bill Clinton. Ça s'appelle « Le président a disparu ». Merci beaucoup, Falline Beaubier. On se retrouve prochainement, hein?
Oui, très bien. Bonne journée.
Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission, une émission toute féminine en ce qui concerne mes invités. Je voudrais les remercier de s'être déplacés ici. Il y avait Heather O'Neill, il y avait Alice Pasquale, Falline Beaubier, Vanessa Beaulieu et bien sûr notre chroniqueuse qui vient ici une fois par mois à l'émission, Claudia Larochelle. Je voudrais remercier Maurice Bolduc qui était à la régie aujourd'hui. Et puis, ben voilà, c'était Clotilde Say qui va vous souhaiter une belle semaine.
pleine d'heureuses et de joyeuses lectures et à la semaine prochaine. Salut!